Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, de quel droit hérite-t-on ? À moins d'un nouveau report, c'est demain que le tribunal de grande instance de Nanterre examinera en référé le dossier du patrimoine de Johnny Hallyday. Deux de ses enfants, Laura Smet et David Hallyday, contestent son dernier testament dans lequel il les déshérite en ne leur léguant rien. Pratique interdite en droit français, mais autorisée par le droit américain, le chanteur résidait à Los Angeles. Alors si cette affaire de famille passionne autant, c'est d'abord lié à la notoriété de Johnny Hallyday. C'est aussi parce qu'on a fait de sa mort une affaire nationale. Si nous sommes tous un peu Johnny, comme on a pu l'entendre, alors cette dispute nous concerne également. Mais au-delà de la personnalité des protagonistes, il y a aussi le fait que cette histoire touche à quelque chose d'universel. Nous sommes tous des héritiers, nous aurons tous quelque chose à transmettre, des biens matériels, mais aussi une histoire, une culture, des capacités sociales. L'héritage est une institution qui fonde notre société, fondation tellement solide qu'on ne prend plus vraiment la peine de s'interroger sur sa légitimité ni sa nature, quand bien même on en dénonce les effets, ce que l'héritage produit comme inégalité. Alors de quel droit hérite-t-on ? Voilà, et je précise que ce titre-là, voilà, c'était un petit peu fort, hein, la fin de notre générique. Ce titre-là, il est écrit au singulier et au pluriel. C'est important, me semble-t-il. On va le voir dans cette discussion. On va en discuter en tout cas avec deux invités. Nathalie Sartou-Laju, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, rédactrice en chef adjointe de la revue Études, qui est une revue jésuite. Vous avez publié il y a quelques semaines de cela aux éditions Bayard, Le geste de transmettre. Pour discuter avec vous, Gérard Mauger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Parmi vos publications, je citerai celle qui, je crois, est la dernière, Âge et Génération, aux éditions La Découverte, on peut trouver dans la collection Repères. Et puis comme nous sommes le dernier jeudi du mois, nous sommes en partenariat avec le journal La Croix et en présence de son directeur Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et je précise que comme à chaque fois, nos deux invités du soir sont interviewé dans l'édition du jour de La Croix, interviewé par une des journalistes de votre rédaction,
Élodie Moreau.
Voilà. Alors je voudrais qu'on commence par évoquer, même si ce ne sera pas le seul, l'aspect matériel de l'héritage, celui qui est régi justement par le droit. Qu'est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, Nathalie Sartou-Laju et Gérard Mauger, de ce principe ? Principe, alors je rappelle, ce sont des individus qui sont choisis soit par le défunt, soit par le droit, justement pour hériter d'un autre individu. Est-ce que ce principe vous paraît juste, Gérard Mauger ?
À moi personnellement, j'aurais tendance à dire non, mais enfin c'est pas la question quoi. Je dirais, c'est à moi sociologue, alors je répondrais que c'est, je crois, un mécanisme tout à fait essentiel de la reproduction de nos sociétés telles qu'elles fonctionnent et telles qu'elles sont. Hein, toute espèce de société a besoin, pour exister, de se reproduire biologiquement. Il y a une institution qui en est chargée, ça s'appelle la famille, voilà, sous diverses formes. Enfin bref, ça se perdure et c'est tout à fait essentiel. Mais elle se reproduit non seulement biologiquement par la famille, mais aussi sociologiquement, pourrait-on dire, socialement. C'est aussi un ensemble de structures sociales qui se reproduisent de génération en génération, même si elles se transforment, même si elles évoluent. Et de ce point de vue-là, je pense que la famille, voilà, joue un rôle tout à fait essentiel de transmission. Alors de transmission de quoi,
je dirais, bah, oui, mais alors justement, pour moi, je voulais commencer sur la transmission, alors peut-être pour l'approche la plus littérale, la plus premier degré, disons, de ce qu'est l'héritage, c'est-à-dire d'un patrimoine de biens matériels. Est-ce que cette transmission-là, c'est une transmission qui vous paraît... Alors, je reste sur cette notion de juste, même si je sais que c'est peut-être pas une notion qui est très sociologique.
Non, mais en tout cas... On a le droit de la poser. Ouais. C'est tout à fait légitime hein, de la poser. Bah, elle porte à conséquence. Quoi. On peut dire, voilà, on peut trouver que ce sont des conséquences fastes, heureuses, ou bien voilà, qu'on peut les déplorer. Je pense qu'une des conséquences... simple de cette institution qui est l'héritage économique sous cet aspect économique, c'est la reproduction des inégalités économiques massives et même de plus en plus grandes, comme l'a montré il n'y a pas longtemps Thomas Piketty dans un livre assez célèbre. Il y a une espèce d'explosion de nouveau, une réexplosion hein, après la période de l'entre-deux-guerres. Il y a de nouveau une explosion des inégalités patrimoniales qui est absolument colossale, c'est vrai. Donc l'institution qui permet qui permet littéralement hein, la possibilité de ça, c'est bien sûr l'institution familiale et l'héritage économique. Donc si on est contre le déploiement sans limite de ces inégalités économiques, il faut faire quelque chose. Quoi. Sinon, si les choses restent en l'état, alors c'est sûr que ça ne peut que se reproduire.
Donc si on est contre ces inégalités, on pourrait se dire qu'on est contre, a priori, l'héritage. Est-ce que c'est une façon d'aborder les choses qui pourrait vous convenir à vous, Nathalie Sartoulaju?
Tout dépend de quelles inégalités on parle, en fait. Parce que je pense que le fait de ne pas pouvoir choisir entièrement, en tout cas, ses héritiers, et qu'il y a un droit de réserve pour les descendants, je crois que c'est une bonne chose, en fait, parce que ça permet de... Ben déjà, c'est une garantie pour l'égalité des enfants au moins au sein d'une même famille. Et puis, je pense aussi que c'est une manière d'assurer la solidarité entre les générations. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a des inégalités dont on doit s'inquiéter, ce sont les inégalités intergénérationnelles. Et l'héritage est une manière aussi de remédier à ces inégalités entre les générations. On est quand même aujourd'hui dans une situation assez inédite par rapport à cette question-là, parce qu'il y a plusieurs générations qui sont amenées à coexister ensemble. Au moins quatre générations, et non plus simplement deux. Il n'y a plus simplement les anciens et les jeunes, il y a au moins quatre générations. Donc je pense que l'héritage va être aussi, et la transmission de l'héritage va être une manière aussi d'assurer la solidarité entre les générations, notamment vis-à-vis des plus jeunes.
Oui, parce que contrairement au passé, c'est plus forcément les parents, les enfants qui héritent directement de leurs parents. Mais là, la coexistence de ces quatre générations fait qu'il y a des générations qui sont sautées d'une certaine manière.
C'est vrai.
Donc, ça remet en cause aussi la façon dont on transmet
ces
héritages.
Mais je pense qu'il va falloir penser différemment les solidarités intergénérationnelles et peut-être même faciliter le legs des grands-parents aussi aux petits-enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que des générations qui sont nées lors des Trente Glorieuses ont pu profiter d'une situation économique extrêmement favorable. C'est pas le cas des jeunes générations aujourd'hui. Et c'est bien aussi que l'héritage remédie à ces inégalités-là.
Guillaume Goubert.
Gérard Mauger, remettre en cause l'héritage, est-ce que ça ne serait pas priver les personnes d'une motivation extraordinairement forte quand on discute de ça avec des on dit toujours j'ai travaillé toute ma vie, je veux le transmettre à mes enfants, leur retirer cette motivation, est-ce que ce serait pas finalement d'une certaine façon contre-productif dans la mesure où ça découragerait les gens d'entreprendre, d'agir?
On peut se poser la question, oui, savoir si c'est ça la motivation. Je crois pas, moi, personnellement, je n'y crois pas tellement à cette affaire-là. Je pense que ça peut compter, hein, on peut imaginer ça. Toute espèce de parents ont envie de transmettre des choses à leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur transmettre? Des biens matériels, certes, c'est important, mais bon, pas forcément. Et ben, mais si à les entendre, d'ailleurs, c'est même pas essentiel, à vrai dire. Hein. Ils souhaitent plutôt leur transmettre, je sais pas quoi, des valeurs, comme on dit. Là encore, je vais faire le sociologue. Bon, s'ils transmettent aussi, je pense, une autre espèce de capital qui est moins visible que le capital économique, qui est le capital culturel. C'est ce que Bourdieu, en tout cas, appelait le capital culturel, mais à mon avis, à juste titre. Parce que le capital culturel, c'est la ressource, hein, le capital spécifique qui permet ou entrave une chose tout à fait essentielle dans la reproduction de nos sociétés, qui est la réussite scolaire. Une chose tout à fait essentielle, on sait ça depuis fort longtemps maintenant, depuis Bourdieu et Passeron, mais enfin c'est 1964, mais enfin l'INED avant avait déjà montré les mêmes résultats, et qui sont toujours à vérifier, hein, parfaitement vérifiés. Voilà, c'est la variable différentielle qui permet de comprendre, rendre compte de la réussite ou de l'échec scolaire, c'est le capital culturel qu'on hérite, en quelque sorte, familialement, qu'on hérite d'abord centralement à travers la langue maternelle, hein, la langue qu'on dit maternelle, la langue qu'on transmet, elle est plus ou moins proche de la langue scolaire ou plus ou moins éloignée de la langue scolaire. Et suivant qu'elle est proche ou éloignée, la réussite scolaire différente, je simplifie, hein, mais enfin bon, c'est tout à fait essentiel. On sait, par exemple, c'est un résultat classique, que les enfants qui réussissent le mieux à l'école sont les enfants enseignants. Alors, c'est pas très difficile à comprendre dans le cadre de ce que je viens de dire. Si on parle à la maison la langue scolaire, quand on arrive à l'école, on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle langue, la langue scolaire, justement, parce qu'on la parle couramment. On n'est pas dépaysé. Donc on a cette variable-là qui est très très importante dans la transmission, hein, qui n'est pas seulement le capital économique, ça compte bien sûr, Jean-Paul disait un mot tout à l'heure, mais bien sûr aussi le capital culturel qui est un autre élément tout à fait essentiel.
Est-ce que c'est cette variable-là qui est la plus importante pour vous, Nathalie Sartoulaju? C'est-à-dire ce capital culturel, ce capital social, davantage que le capital économique?
Je pense qu'à travers... On voit bien que, de toute façon, à travers les disputes qu'il y a autour d'un héritage, il y a bien sûr la question du patrimoine financier, du patrimoine matériel, mais à travers ces biens, à travers ces sommes d'argent, il y a tout un patrimoine immatériel aussi, et affectif même, hein, de symbolique, puis de sentiments. La question que l'on pose, c'est au fond, combien je compte pour toi? Et c'est cette question-là que les descendants posent, si vous voulez, à leurs parents.
Et c'est ce qu'on voit dans la question autour de l'héritage de Johnny Hallyday, justement.
Oui, on voit ça. On voit bien que l'héritage est un lieu passionnel parce que, effectivement, il y a la question des parts reçues et à travers la question des parts reçues, il y a la question aussi, quel amour j'ai reçu? Est-ce que j'ai compté pour toi? Et là, finalement, on n'est jamais sûr de l'amour que l'on a reçu. Et c'est pour ça que la question des parts, si vous voulez, est si vive et si cruciale. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que si la question, en fait, de l'héritage est si essentielle, et finalement pour toutes les classes sociales, pourquoi tous les Français tiennent à cette question de l'héritage? C'est parce que, au fond, d'une manière peut-être plus fondamentale, elle est liée aussi à la question de la manière dont on va affronter sa propre mort. Et ça, c'est vrai pour tous les individus, quelle que soit leur classe sociale. Et c'est la question, au fond, qu'est-ce qui va rester de moi après ma mort? Hein, quelle trace? Et au fond, peut-être que cette question-là, si vous voulez, elle traverse, je crois, toutes les catégories sociologiques.
Ça, c'est vrai que c'est ce que vous notez dans l'entretien que vous avez donné à La Croix, Gérard Mauger, c'est-à-dire que cette question, cette importance donnée à l'héritage, c'est pas seulement ceux qui ont beaucoup de capital économique, ça infuse l'ensemble de la société. Comment expliquer que même les plus modestes y accordent une telle importance alors qu'on sait bien que, et on le voit de plus en plus, il y a eu un rapport l'an dernier de France Stratégie qui notait qu'aujourd'hui, ce que l'on héritait, le patrimoine dont on héritait, déterminait beaucoup plus nos parcours dans la vie que les revenus du travail que l'on effectuait. Or, donc, ça crée beaucoup d'inégalités. Et pourtant, on est quand même attaché au patrimoine, même quand on n'a pas grand-chose à hériter ou pas grand-chose à transmettre. Comment c'est possible, ça?
Alors, d'abord, quand même, je vais dire des choses très pédestres, hein, mais tant pis, c'est la vocation des sociologues, quoi. Je voudrais quand même signaler que il y a eu un événement tout à fait important, quand même, qui est depuis la deuxième moitié des années 70, depuis que Raymond Barre, quand il était Premier ministre, sous Giscard d'Estaing, a mis en place un nouveau dispositif d'accès à la propriété du logement, qui était la substitution de l'aide à la personne à l'aide à la pierre. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais grosso modo, ça avait pour conséquence d'inviter, d'aider, même les gens pas très riches, à pouvoir accéder, grâce à des prêts bancaires à taux réduit, à la construction. Et ça a marché. Ça a été extraordinairement efficace. C'est-à-dire qu'à la fois au dispositif antérieur de politique du logement qui fait favoriser la construction des grands ensembles, hein, les fameuses cités dont on parle aujourd'hui, qui autrefois étaient un progrès, aujourd'hui apparaissent comme c'est plus compliqué, entre autres, d'ailleurs pour la raison dont je suis en train de parler, on a inventé, en quelque sorte, créé, développé l'ouvrier pavillonnaire. Bon, et ça a marché, parce que c'est à peu près 50% aujourd'hui des ouvriers qui sont propriétaires de leur logement. Et c'est un logement qui y tienne, à la fois parce que, bon, voilà, ça a été un sacrifice de tout une vie, une espèce de avec toutes les conséquences que ça comporte dans sa vie de toute façon, de tas de façons. C'est aussi souvent une part d'autoconstruction. On y a mis de soi-même, de son énergie, de ses bras, etc. Donc cette maison, là, bon, ce pavillon, il vaut plus que ce qu'il vaut, quoi, économiquement. Il vaut pas rien économiquement, mais bon, il vaut aussi autre chose. Il vaut, voilà, l'énergie qu'on a fait, un gage de respectabilité sociale, d'accès à une forme de progrès, bon, etc. Donc, voilà. Je pense que, en faisant des propriétaires, en fabriquant des propriétaires de quelque chose, on crée évidemment aussi, vous voyez, des gens qui sont des propriétaires de quelque chose, donc quelque chose à transmettre, donc qui s'intéressent à cette histoire de transmission. Donc, pour lesquels, ça aura du sens, effectivement, que de transmettre quelque chose plutôt que rien, quoi. Bon, je pense.
Alors... Donc, Raymond Barre a eu la peau des marxistes, quoi, quelque part. C'est ça?
Ah, bah, c'était tout à fait intentionnel, je pense, de sa part. c'est un des pères du néolibéralisme à la française mis en acte. Pas les penseurs, il y en a depuis fort longtemps, mais ceux qui ont commencé à mettre en pratique ces choses-là, oui, Raymond Barre a joué un rôle, Giscard d'Estaing a joué un rôle tout à fait essentiel, oui, c'est vrai.
Guillaume Gobert.
Nathalie Sertoulagis, est-ce que c'est possible de refuser un héritage qui soit financier ou d'ailleurs symbolique, idéologique, et qu'est-ce que ça peut signifier de la part de quelqu'un de refuser un héritage?
Oui, je pense que c'est une liberté, d'ailleurs, qui est absolument... précieuse. Je crois que la loi française à la fois interdit la possibilité de déshériter certains de ses enfants, mais elle garantit en revanche la possibilité de renoncer à un héritage, de le refuser. Et je pense que ça, même symboliquement, si vous voulez, c'est une liberté extrêmement précieuse. Parce que d'abord, quand on hérite, on n'hérite pas forcément d'un patrimoine. Ou quand on hérite d'un patrimoine, on hérite aussi de dettes. Et il y a des héritages qui sont extrêmement lourds, qui peuvent être des fardeaux écrasants. Et on peut dire non, ben je refuse d'hériter des dettes, de payer les dettes de mon père, quoi. Et ça, je pense que c'est une liberté précieuse, hein, parce qu'au fond, ça donne une signification, si vous voulez. Ça rappelle que l'héritage, pour être fécond, doit faire une place à celui qui reçoit, doit laisser une place à celui qui reçoit. Et cette liberté-là, elle est précieuse parce qu'elle permet de s'approprier un héritage, de le faire sien et éventuellement de le refuser, d'y renoncer si ça ne permet pas finalement de suivre une voie plus personnelle.
Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu problématique justement cette liberté de refuser un héritage ? Parce qu'effectivement quand on hérite d'un patrimoine économique disons assez important, c'est assez rare j'imagine, ceux qui vont dire non moi l'argent supplémentaire même si je suis déjà aisé, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que si on refuse la plupart du temps c'est parce qu'il y a des dettes, mais si on accepte le principe de l'héritage et de l'idée de la filiation de l'héritage familial direct, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'on accepte d'hériter de tout ce que nous transmettent nos parents, y compris de leurs dettes ? Est-ce que ça fait... Il n'y a pas une forme de responsabilité là aussi ? Il n'y a pas une logique à accepter aussi les dettes ?
Non, parce que je pense que la dette des parents à l'endroit des enfants n'est pas la même que la dette des enfants à l'endroit des parents. Il y a une asymétrie. Mais je pense que les parents doivent à leurs enfants un amour, effectivement, qui est inconditionnel. Ils ont des obligations à laquelle ils ne peuvent pas déroger. Et la relation des enfants à l'endroit des parents, il y a une obligation, il y a des obligations, mais qui sont pas tout à fait du même ordre.
Les enfants sont pas responsables de ce qu'on peut être leurs parents, même si dans votre livre, vous citez la phrase de Françoise Dolto qui répondait aux enfants « Tu n'avais qu'à pas choisir de naître là ».
Oui, je pense que ça, c'est une... Mais ça dit bien, vous voyez, cette liberté. Ça dit bien qu'il n'y a pas, dans la position de l'héritier, dans la position de celui qui reçoit et qui souvent se plaint. Parce qu'en fait, souvent, on est dans la plainte. Hein. On est toujours dans l'amertume ou dans la frustration. On ne reçoit jamais ce que l'on souhaite. Hein. Et là, finalement, Françoise Dolto, elle casse, si vous voulez, cette plainte hein, perpétuelle, si vous voulez. Et elle dit, au fond, mais il n'y a pas de déterminisme absolu. Même face aux héritages les plus lourds, il t'appartient aussi de recevoir et la manière dont tu vas recevoir cet héritage-là, ce que toi tu vas en faire, c'est ça qui compte. C'est-à-dire le fait d'hériter ne dispense pas de la capacité aussi à porter soi-même sa propre vie.
Il n'y a pas de déterminisme absolu. Là, forcément, on retourne du côté de Gérard Mauger qui nous parle de Bourdieu. Le déterminisme, ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, justement, dans la sociologie bourdieusienne. Pas de déterminisme absolu, mais ça pèse quand même énormément.
Bah oui, il y a des choses qui pèsent beaucoup, quoi. Je pense que celle dont on est en train de parler, comment dire que ça ne pèse pas de tas de façons sur notre vie, quoi. L'héritage économique, bien sûr. Bon, alors, il est plus ou moins, ça varie suivant qu'il est plus ou moins élevé, hein. Évidemment, c'est pas la même chose d'hériter de Johnny Hallyday ou d'hériter d'un pavillon de banlieue. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Oui, mais vous avez plein de success stories qui vont vous montrer que même en partant de rien, on peut faire fortune. Et...
Oui, non, c'est assez rare, quand
vous
même.
Croyez pas
hein. C'est assez rare. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. On peut essayer d'en comprendre. C'est un défi pour essayer d'en comprendre, de le comprendre, mais on y arrive. On sait assez bien faire ça. On peut aussi comprendre comment des héritiers peuvent aussi échouer. Ça arrive aussi, hein, dès qu'ils se plantent.
Bon, qui dilapident voilà. Aussi.
Oui, qui dilapident, voilà, les dilapidateurs. Dès qu'ils plus d'héritage, même. J'ai un exemple à l'esprit qui est tout à fait spectaculaire, mais évidemment très très rare, c'est Ludwig Wittgenstein, qui était l'héritier d'une famille extraordinaire, richissime, et qui a renoncé à tous ses avoirs économiques au profit de ses frères et sœurs. Il n'en voulait pas, lui, pas entendre parler de ça. Enfin, c'est pas le modèle le plus courant. Mais ce que je veux dire, peut-être, au-delà de cet héritage économique, culturel, c'est aussi le fait que de la famille, on n'hérite pas seulement ça, en fait. Alors, on hérite encore, je dirais, un autre aspect très très, très important qu'on peut appeler le capital social. Le capital social, c'est quoi ? C'est les relations. Hein, c'est des relations, c'est des amis qu'on fréquente et qui jouent un rôle tout à fait essentiel. On peut le montrer aussi de façon un peu déterministe, désolé aux statistiques, que voilà, un diplôme, par exemple, se négocie d'autant mieux sur le marché du travail qu'il est assorti de capital social qui permet de le valoriser. Ça marche beaucoup mieux avec du capital social, des relations, comme on dit. Voilà, c'est une autre chose. Mais il y a encore autre chose. Voilà, c'est ça que je veux venir. C'est la famille, on hérite aussi des manières d'être, des manières de faire, même si elles ne sont pas totalement liées à la famille. Mais enfin, quand même, la famille, ça pèse beaucoup. On y acquiert, en quelque sorte, intériorise des dispositions. Voilà, ce qu'on appelle des dispositions, c'est-à-dire des intérêts, des goûts, des dégoûts, des aversions, des choses comme ça, qui comptent énormément. Ça me fait penser, ce dont on parlait il y a un instant, à cette formule de Marx que je trouve très intéressante, où il disait l'héritage hérite l'héritier. Vous voyez, il renverse la formule, c'est l'héritage qui hérite d'un héritier. Mais je pense qu'elle est, bon, voilà, c'est une provocation intellectuelle extrêmement séduisante, parce qu'elle dit, je crois, une part de vérité. C'est que, quand un héritage conséquent, je ne dis pas le pavillon de banlieue, là encore une fois, mais pour que cet héritage trouve preneur, et ça c'est essentiel par rapport à la reproduction des structures sociales, il faut encore qu'il y ait des héritiers qui soient foutus d'hériter cet héritage et d'en faire quelque chose. C'était particulièrement vrai pour une France qui a été rurale pendant très très longtemps, où l'essentiel, la majorité d'entre nous étaient des paysans. Ben, pour transmettre la terre, il faut bien la transmettre à quelqu'un, il fallait un paysan. Il fallait fabriquer au moins par les parmi des enfants un qui soit un paysan foutu d'hériter cet héritage, quoi. Donc une des tâches de la famille, vous voyez, c'était de fabriquer un paysan, au moins un, qui puisse hériter la terre. Vous voyez, bon. Et de la même façon, je ne sais pas, quand on est Bernard Arnault avec LVMH, il faut fabriquer, bon, voilà, si possible, non seulement des héritiers qui vont hériter, mais voilà, quelqu'un qui soit capable d'hériter de LVMH, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut aussi transmettre des dispositions, voilà, des dispositions à hériter, des dispositions à hériter l'héritage.
Nathalie Sartoulage.
Oui, là, je crois que nous sommes dans des positions finalement assez proches, oui. Parce que dans ce que vous dites, parce que quand je dis qu'il n'y a pas de déterminisme absolu, je ne dis pas évidemment qu'il y a des déterminismes, mais ce que je veux dire, c'est que la transmission en fait de l'héritage n'est pas un processus mécanique. Voilà, n'a rien de mécanique, et que c'est un processus qui est dynamique, qui est vivant, et c'est pour ça que dans mon livre sur le geste de transmettre, j'utilise le jeu de la passe, la métaphore en fait rubistique. Alors rubistique, hein, je dis bien rubistique, parce que au rugby, le ballon a la particularité d'être ovale, hein, et donc il peut avoir des rebonds imprévisibles, ce qui suppose effectivement tout un art dangereux et précieux aussi de la réception. Il faut savoir recevoir. Hein, et la manière dont on reçoit, ouais. Ce que vous dites en fait, hein, oui, il faut fabriquer des héritiers, mais qui ont une capacité à recevoir.
Oui, hein.
Et ces dispositions-là sont très précieuses pour pouvoir aussi transmettre à son tour.
Non seulement d'ailleurs la balle est ovale, donc on ne sait pas très bien comment on va la recevoir, mais en plus on fait la passe vers l'arrière, ce qui est aussi intéressant justement sur la transmission. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder devant soi au rugby, mais il faut regarder à l'arrière, c'est-à-dire pas se désintéresser du passé. Le passé, oui, est important, enfin, oui, ce qui est derrière soi est important.
Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est une image vraiment très très forte, hein, si vous voulez, de la transmission pour aujourd'hui, parce que je crois que c'est le seul sport, effectivement, à ma connaissance, où le collectif progresse, va de l'avant, mais en faisant la passe à celui qui est derrière soi.
Guillaume Goubert.
J'espère que je ne vais pas saouler tous les auditeurs en parlant de mes 68, parce qu'on est probablement...
Non, ça va pour l'instant, sur France Culture, on n'a pas trop donné encore. Ça va venir.
Donc on fête donc le cinquantenaire et on n'a pas fini d'entendre parler. Non, je me demandais si mes 68 n'avaient pas finalement été un moment aussi qui exprimait un refus d'héritage et qui finalement a duré assez peu de temps. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie?
Bah certainement, parce que en tout cas on attribue souvent la crise de la transmission ou la panne de la transmission à cette génération, même si on peut aussi se dire que cette génération là transmet aujourd'hui un héritage culturel, hein, finalement fût-ce celui de d'une forme de rupture, de capacité à rompre, hein, de capacité à transgresser, puisque de toute façon je pense que transmettre un héritage, en tout cas peut-être que cette génération nous a appris à casser, voilà, une certaine représentation très conservatrice de l'héritage, hein, pour le mieux, voyez, et que transmettre, ce n'est pas simplement se reproduire ou reproduire, c'est aussi transformer le legs, le réinventer, et ça, je pense que c'est un héritage peut-être que l'on doit à mes 68.
Gérard Mauger.
Ah, écoutez, comme ça, bon, sur cette question à laquelle je me suis un peu intéressé, mais par rapport à la question précise que vous posez, il y a eu un exemple classique, d'ailleurs, qui me vient à l'esprit, hein, c'est, qui concerne une partie de mai 68, peut-être pas la plus importante à mes yeux, mais celle dont on va parler le plus, hein, les étudiants. Voilà. Les étudiants, il faudrait dire d'ailleurs sans doute les étudiants, voilà. En tout cas par rapport à ce dont je parle. C'est un des aspects de cette révolte étudiante juvénile de mai 68, et même qui commence un peu avant, hein, c'est la remise en cause d'une morale sexuelle. Ça c'est très évident, c'est dans l'héritage, dans la transmission familiale, il y a voilà, une manière de se comporter en la matière très très forte et très ancienne qui continue de se transmettre, et là ça rue vraiment franchement dans les brancards. Bon, ça rue, on le voit bien, dans les, je sais pas, avec le règlement intérieur de cette université, avant mai 68, ça se voit à Nanterre, mouvement du 22 mars, je viens juste de passer, là, c'est une composante quand même très très présente, et ça durera, bon, vous voyez, jusqu'à l'apparition du MLF, après 68 d'ailleurs, hein, mais qui est un truc tout à fait important, et dont je pense qu'une des composantes était évidemment celle-ci. Elle n'est pas réductible à ça, mais c'est là, pour le coup, effectivement, un refus des rôles traditionnels d'hommes, de femmes, de mari, de femmes, de père, de mère, etc., qui se trouvent remis en cause, à la fois aussi. Alors pour deux phénomènes, là encore, déterminants, je suis désolé, hein, des phénomènes de fond sociologique très très importants, qui est, d'une part, le fait que les femmes accèdent à l'université, commencent à accéder en masse à l'université, c'est-à-dire à acquérir des diplômes, et acquérir des diplômes pas seulement pour en faire une espèce de dot matrimoniale, mais pour les investir sur le marché du travail. Donc elles acquièrent les moyens de leur indépendance économique. D'autre part, il y a la loi Neuwirth, 1967, si ma mémoire est bonne, hein, c'est l'accès à la liberté de contraception, qui sera consolidé par le droit à l'avortement quelques années plus tard, et qui fait aussi que les femmes y acquièrent les moyens de leur indépendance sexuelle. Donc l'indépendance économique, l'indépendance sexuelle, ça change fondamentalement, hein, la condition féminine telle qu'elle était définie antérieurement. De ce fait, la morale sexuelle qui allait avec, l'intériorisation de ce que c'était qu'une femme, hein, du rôle, ce qu'était qu'un rôle féminin, va évidemment changer. Alors ça met du temps, ça se fait pas en deux jours, ce genre de trucs, même s'il y a des phénomènes de fond essentiels qui déterminent les choses, bon, ça va changer les choses. Donc là, il y a un refus qui s'exprime comme tel, un des refus qu'on voit s'exprimer comme tel en 68, c'est ça.
Il y a un refus en 68, et puis après, derrière, il y a donc un héritage, et qui est d'ordre collectif. Là, on n'est plus dans la transmission strictement familiale. Est-ce qu'il faudrait pas, alors je reviens moi à mon héritage sur le plan des biens économiques, disons, sur le patrimoine économique, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un petit peu ce que doit être l'héritage, et notamment par rapport à cette transmission, se dire, bah, finalement, il faudrait que dans la mesure où on transmet déjà tellement de choses symboliques, tellement de capital culturel, tellement de capital social, qu'au moins le capital économique, il faudrait le mutualiser au maximum et en faire profiter l'ensemble de la société. Après tout, pourquoi est-ce que moi, enfant, je devrais davantage hériter de mes parents des biens qu'ils ont accumulés pendant leur vie par rapport à mon voisin en l'occurrence direct, là c'est Guillaume Goubert. Pourquoi est-ce que Guillaume Goubert ne serait pas finalement aussi pertinent à recevoir une partie de l'héritage de ce qu'ont gagné mes parents pendant leur vie? Nathalie Sartoulaju et ensuite Gérard Mauger.
Bien, parce que je crois que c'est une bonne chose, justement, de ne pas choisir ses héritiers. Vous voyez, je crois que c'est vraiment quelque chose...
Oui, on pourrait ne pas choisir en disant, finalement, tout le monde hérite. Vous voyez, on pourrait dire c'est l'ensemble de la société qui hérite. Ça serait aussi une façon de ne pas choisir. Et plutôt que de dire, voilà, on oblige à ce que ça
vous
soit...
Vous voulez dire, c'est l'abolition, vous voulez abolir la propriété privée, vous voulez...
Je ne veux rien, mais...
C'est
non.
Quoi votre souhait?
En tout cas, je pose la question, c'est-à-dire effectivement, pourquoi ne pas abolir l'héritage sur le plan juridique? Est-ce que cette question ne s'est jamais posée? On va peut-être le voir d'ailleurs dans un instant avec Gérard Mauger, mais est-ce que cette question pourrait être posée?
Je ne sais pas si cette question s'est posée sur le plan juridique, mais en fait, je trouverais dangereux sur le plan juridique, en fait, d'abolir l'héritage. Parce que qu'est-ce que dit la condition, qu'est-ce que nous dit la condition d'héritier? C'est pour ça que je trouve que c'est une, malgré tout, même si dans la manière dont vous avez formulé votre question, hein, finalement, de quel droit hérite-t-on? On sent au singulier. En tout cas, on sent bien qu'il y a là de la provocation et que vous dites, au fond, l'héritage est une faveur imméritée, et comme vous le dites, abolissons-la. Mais je trouve ça, si vous voulez, dangereux. En fait, parce que je trouve que la condition d'héritier, oui, c'est une belle condition, parce que c'est une bonne chose de ne pas tout devoir à soi-même. Elle nous rappelle effectivement que on commence par recevoir un nom, une culture, une langue.
Ça suffit justement, non ?
Mais aussi des biens. On est dans telle famille. C'est vrai qu'il y a une injustice. Je pense qu'il y a une injustice et qu'il y a une violence, si vous voulez, et qui heurte la sensibilité moderne et qui heurte notre aspiration à l'égalité et à la liberté. Parce qu'il y a une part non choisie et un peu inégalitaire. On ne choisit pas de naître dans telle famille avec tel patrimoine. Donc ça heurte la sensibilité. Mais je crois qu'il vaut mieux, si vous voulez, accepter ces contraintes-là de la transmission, quitte ensuite à essayer d'en corriger les effets négatifs plutôt que de la refuser. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de dangereux sur le plan anthropologique et symbolique. C'est le risque, c'est de produire des individus désaffiliés, des individus sans filiation et en mal qui souffriraient d'un vide justement de transmission.
Gérard Mauger, la question de l'abolition de l'héritage, elle s'est posée déjà ?
Oui, elle s'est posée très très longtemps et de façon tout à fait vive dans le champ politique. Je ne vais pas reconstituer l'histoire complète, mais enfin donner quelques éléments comme ça. Saint-Simon, par exemple, les Saint-Simoniens, dont Durkheim encore, s'inspirait très fortement. C'était un supporter de Durkheim de Saint-Simon. Il a fait un cours pendant longtemps sur Saint-Simon. Bon, les Saint-Simoniens étaient absolument hostiles à l'héritage. Voilà, c'était des industrialistes convaincus, hein, mais qui étaient aussi totalement hostiles à l'héritage, parce qu'ils disaient, c'est quoi ça, ce truc, cette institution, ça entretient une classe de rentiers oisifs, c'est complètement désastreux, quoi. Donc il faut en finir avec cette affaire-là, ils étaient pour la suppression. On le retrouve chez d'autres, chez je sais pas, des Anglais, par exemple, John Stuart Mill, par exemple, est aussi, lui aussi, contre l'héritage. On le retrouve, bien sûr, dans la tradition du mouvement ouvrier, tel qu'il se développe au XIXe siècle, avec des tendances, hein, parce que on réfléchit beaucoup sur cette question-là. Il faut accéder à la propriété collective des moyens de production. Bon, alors comment on s'y prend ? Évidemment, s'il y a l'héritage, c'est a priori une façon qui interdit, hein, finalement, d'accéder à ça. Encore que, ça peut se débattre, c'est plus compliqué que ça. Et là, on voit, par exemple, dans l'Association internationale des travailleurs, un débat entre les tendances marxistes, qui sont pas vraiment pour la suppression de l'héritage, parce qu'ils pensent que ça doit attendre. On verra ça plus tard. Quand on aura collectivisé les moyens de production, on se posera la question de l'héritage, qui d'ailleurs disparaîtra sans doute de lui-même. Par contre, les anarchistes, Bakounine, à commencer par Bakounine, lui, est pour la suppression de l'héritage. Il y a des débats extrêmement vifs qui vont se prolonger, comme ça, tout au long du XIXe siècle. On le retrouve sans faire de recherche très précise, j'ai vu que Léon Blum, par exemple, qui était pas un fervent supporter de l'institution familiale, d'ailleurs, par ailleurs, si ma mémoire est bonne, était aussi, lui, personnellement, hostile à l'héritage. Il était pas favorable du tout à cette affaire-là. Alors, il ne l'a pas exprimé tel que, officiellement, parce que le Parti Socialiste lui a dit non, on se calme, quoi, bon, c'est peut-être un peu too much, mais lui, personnellement, Blum était favorable à ça, et lui-même, d'ailleurs, autant que je sache, fait partie de ceux qui ont récusé l'héritage, qui était pourtant considérable, une part de son héritage qu'il a donné au journal dont il s'occupait, qui s'appelait Le Populaire, je crois. Voilà, et c'est Le Populaire qui a hérité de Léon Blum, quoi. Donc, vous voyez, bon, voilà, c'est une discussion, effectivement, qui mérite, qui a toute sa place, dans un débat sur les inégalités. Ça pose des questions compliquées, vous avez raison de le signaler. Je pense que ça pose la question, effectivement, de la propriété privée, par exemple. Est-ce que ça doit remettre en cause la propriété privée ? Les marxistes n'étaient pas favorables à ça. Hein, mais ça dépend de la propriété privée. De quoi ? Bon, c'est une autre question, hein, qui a également son importance. Voilà ce qu'on peut dire comme ça, rapidement. Mais alors, on peut se demander, par contre, pourquoi aujourd'hui, où on se préoccupe des inégalités, c'est une genre de question qu'on pose assez rarement. C'est une bonne occasion de le faire.
Guillaume Boulaire.
Si on se pose la question du bon usage de l'héritage, non pas du point de vue de l'ensemble de la société, mais du point de vue des individus, par exemple, Gérard Mauger, vous décriviez très bien tout à l'heure l'avantage que peut... dont peut bénéficier quelqu'un du fait de son héritage immatériel, de son héritage culturel, de son héritage linguistique, etc. Pour une personne comme ça, quel peut être le bon usage de cet héritage ?
Oh, je pense que, comment dire, n'importe quel héritier culturel a lui aussi la mission, la tâche, se sent investi en tout cas de la mission de le prolonger, en tout cas au moins de le reproduire, cet héritage, je crois. Hein, je pense que, voilà, un héritier culturel ou un héritier d'une vocation scolaire, par exemple, d'une mission, moi je suis typiquement ça, je suis un produit de la transmission maternelle, de l'injonction maternelle de « tu vas me faire le plaisir de réussir à l'école là où moi j'ai été retiré de l'école contre mon gré ». Voilà, donc tu as une espèce de conditions de réussite scolaire. Donc on hérite aussi de choses comme ça. Hein. Bon, j'ai fait un peu le matérialiste sauvage pendant tout ce petit discours, mais bon, il y a des choses comme, en évoquant les dispositions, des choses comme ça, des aspirations, des désirs. Bon, ça existe. Hein. Je ne dis pas que ces choses-là n'existent pas. Ça compte. Hein. Donc je pense que voilà, l'héritage culturel, oui, c'est aussi une chose de quand on le reçoit, qu'on se sent une espèce de devoir de reproduction et de transmission à son tour. Et je pense que c'est tout à fait essentiel. Qui pourrait s'élever contre ça? Je vois pas, quoi. Bon, il y a différentes manières, là encore, d'hériter de la culture, mais bon, voilà. Il y a différentes manières d'en user, également, mais bon, voilà, tout ça est objet de débat, tout ça est compliqué, mais je crois que c'est important, oui, tout à fait.
Nathalie Sartoulajou, l'héritage, ça n'est pas seulement un droit, alors c'est souvent peut-être d'ailleurs considéré comme un dû, mais c'est aussi un devoir. Quand on est héritier, il y a le devoir de celui qui transmet, mais il y a aussi le devoir de celui à qui on transmet, non? Quand même un peu.
Oui, bah c'est en fait, on s'inscrit quand on est dans ce processus dynamique de la transmission, on rentre un petit peu dans une, c'est accepter finalement de s'inscrire dans la chaîne des générations, et c'est accepter d'être peut-être simplement un maillon. Dans la chaîne des générations. Alors ça veut pas dire ça veut dire un maillon unique, c'est-à-dire que la transmission, je suis le relais par lequel la transmission passe, ça passe par moi, mais avec cette idée aussi que ça a commencé avant moi. J'ai reçu de mes ascendants qui ont eux-mêmes reçu, etc. Et puis la vie ne s'arrête pas non plus à ma mort. Tout ne s'arrête pas à ma mort. Ça, il y a quelque chose, un processus dynamique, si vous voulez, de la transmission de la vie, qui fait que ça passe par moi. Pas simplement parce que je reproduis, mais parce que je vais être capable aussi de donner en propre à d'autres qui transformeront eux-mêmes l'héritage, etc.
Est-ce que encourager la philanthropie, éventuellement par des déductions fiscales, ça peut être une manière de rendre la transmission de fortune, de favoriser une certaine redistribution de la fortune, Nathalie ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une partie de l'héritage qui puisse effectivement faire l'objet de dons. Parce que nous ne sommes pas simplement, je crois, avec cette notion d'héritage, c'est une notion extrêmement complexe. Et c'est pas simplement un droit, comme on l'a dit, c'est pas simplement une dette, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du don. Et donc je pense que ça aussi, c'est à encourager.
N'est-ce pas le bon moment, Guillaume Goubert, pour caser une citation de Warren Buffett? Parce que quelques petits secrets d'avant émission, Guillaume Goubert nous a dit, je vais vous parler d'une citation de Warren Buffett avant l'émission, parce que j'aurais jamais l'occasion de la citer pendant. Eh ben si.
Alors, il faut préciser que Warren Buffett est un Américain qui a fait une fortune absolument gigantesque et qui a donné l'essentiel de cette fortune à la fondation Bill Gates. Et quand il a commenté, c'est quelqu'un qui a un certain don pour faire des bons mots. Et quand il a donné toute cette part de sa fortune à la fondation Bill Gates, on lui a dit, mais alors, vos enfants, etc. Et il a dit, toute personne riche devrait laisser à ses enfants assez pour faire ce qu'ils veulent, mais pas assez pour ne rien faire.
Vous en pensez quoi, Gérard Mauger?
Oui, parce que c'est réfléchi, quoi. C'est une réflexion intéressante sur des transformations éventuelles, des modalités de transformation, en tout cas, de suppression, mais de transformation, en tout cas, de cette institution qu'est l'héritage. Peut-être j'en profite pour juste ajouter un mot. Je pense que, et revenir à Johnny Hallyday, c'est que une des choses qu'on transmet aussi, dont je n'ai pas parlé, même si vous l'avez évoqué très vite, c'est un nom. Transmet un nom de famille. Le nom du père, ça compte. Si on s'en tient à ce que disent les psychanalystes, ils n'ont pas forcément toujours tort. C'est transmettre un nom, oui, c'est pas rien. C'est transmettre l'appartenance à une lignée familiale qui se symbolise à travers justement un nom.
Et dans le cas... lui, c'est compliqué parce qu'il transmet son nom de scène à son fils David et puis son nom à l'état civil à sa fille Laura.
Voilà, vous voyez ce qui manque pas d'intérêt. Je trouve qu'il y aura une enquête à faire pour un journaliste. C'est de se demander, tiens, mais pourquoi donc David Hallyday? Pourquoi lui, Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, hein, si je ne m'abuse, change de nom, hein, le nom du père, il le met à la poubelle, il en change, et dans ses deux enfants, alors en tout cas les deux premiers enfants, un se l'approprie et l'autre le récuse, ou en tout cas reprend le nom du grand-père, quoi. Bon, vous voyez, il y a matière à réfléchir, vous voyez, sur cet aspect aussi de l'héritage qui est le patronyme, le nom de famille, qui est un héritage symbolique, mais qui a son importance, qui me semble tout à fait essentielle.
Ah ça, voilà, si des psys nous écoutent, ils peuvent répondre à cette question finalement. Lequel des deux, entre Laura et David, fait le mieux fructifier l'héritage de son père,
voilà.
Soit David Hallyday, soit Laura Smet. Bon, on verra bien si on a des réponses. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Gérard Mauger et Nathalie Sertoulaju. Merci également à Guillaume Goubert, directeur de La Croix. Donc je rappelle, on peut aussi retrouver vos réflexions sur notre sujet du jour, de quel droit hérite-t-on, dans le journal du jour de La Croix. Merci à toute l'équipe du Grain, Leïla Saïdi, Fanny Riché, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Morgane Danam.